VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du mercredi 9 septembre 2015. À la une ce soir.
La violence s'accentue au Burundi. L'armée rapporte que deux hommes armés ont été tués près de la capitale.
Procès Hissène Habré, experts et témoins sont entendus par la Cour spéciale de Dakar.
Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État.
Reportage à suivre de notre correspondante à Dakar.
Crise migratoire en Europe. Le département d'État a promis qu'entre 5 000 et 8 000 Syriens seraient réinstallés aux États-Unis à l'automne 2016.
On salue ce soir le record de longévité de la reine Elisabeth II à la tête de la monarchie britannique.
Nous aurons également nos segments sur l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Violence au Burundi, l'armée annonce que deux hommes armés ont été tués dans deux affrontements distincts avec des militaires dans les environs de la capitale Bujumbura. Pour le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratuza, ce sont des malfaiteurs qui ne peuvent être qualifiés de rebelles. L'armée nie toute perte dans ses rangs. Plus sur le Burundi en seconde partie d'émission.
La Cour suprême du Rwanda s'est déclarée aujourd'hui compétente pour statuer sur la requête d'un parti d'opposition contre le troisième mandat du président Kagame. Le Parti démocratique a remis en cause la spontanéité des millions de demandes en faveur de la réforme constitutionnelle. En juillet, le Parlement a affirmé n'avoir recensé qu'une dizaine d'électeurs dans le pays opposés à une réforme de l'article 101 de la Constitution. Les juges ont estimé que le dossier est amplement justifié. Le président du Parti démocratique, Franck Habineza, s'est félicité de la décision. Les États-Unis ont réitéré cette semaine leur opposition à un éventuel troisième mandat du président Kagame au pouvoir depuis 21 ans.
La juge Immaculée Nyiringhwaya a déclaré que la Cour suprême est compétente pour statuer sur la requête du Parti démocratique vert.
La Cour déclare être compétente de juger les requêtes portées sur la Constitution et de fournir des explications sur les articles des lois y relatives. La Cour décide que la remise de l'audience sur le fond de l'affaire est fixée au 23 septembre 2015.
À la sortie de l'audience, M. Franck Habineza, le président de la petite formation de l'opposition qui tente d'empêcher en justice une réforme constitutionnelle, permettant au président Paul Kagame de briguer un troisième mandat en 2017, s'est dit très satisfait de la décision.
Si la Cour s'était déclarée incompétente de juger notre requête, cela aurait été scandaleux d'autant qu'au Rwanda, il n'existe aucune autre juridiction plus élevée que la Cour suprême.
Les avocats de la défense disent qu'ils se soumettront au verdict. Mi-août, après 3 semaines de consultation populaire, le Parlement rwandais avait donné son feu vert à une réforme constitutionnelle qui devrait permettre au président Kagame de se représenter. Maurice Magorane, VOA Afrique, Kigali.
Côte d'Ivoire, la Cour constitutionnelle a rendu publique ce mercredi la liste des candidatures validées pour l'élection présidentielle du 25 octobre. 10 candidatures, dont celle du président sortant Alassane Ouattara, Jean-Roger Bion.
Oui, les principaux candidats seront présents à la présidentielle du 25 octobre. En face du président sortant Alassane Ouattara, il y aura Pascal Affi-N'Guessan, candidat d'une frange du FPI de Laurent Gbagbo. Il faudra également compter sur des dissidents du PDCI qui ont décidé de faire la cause seule en tant que candidat indépendant, comme Charles Konan Bani et Amara Issi. Les autres candidats retenus sont Siméon Konan Kouadio, Henriette Lagou Adjoa, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konan Bertin, Jacqueline Claire Kouangwa et Kakou Nyangbo. La campagne va s'ouvrir le 9 octobre et s'achèvera le 23 à minuit. Devançant l'annonce officielle de la liste, les opposants les plus virulents au président Ouattara ont d'ores et déjà contesté sa candidature et appelé à manifester demain jeudi, brandissant la carte de son inéligibilité. Le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko a mis en garde contre tout désordre ou trouble, assurant que des moyens seront mis en place pour que ce scrutin soit sécurisé et apaisé.
Merci Jean-Roger Billon. Lutte contre Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un dirigeant du groupe djihadiste, Abu Ubaïda Youssef Al-Anabi, figure désormais sur une liste noire terroriste américaine. Conséquence, les biens qu'il pourrait détenir aux États-Unis vont être gelés. Il est aussi interdit aux Américains de commercer avec le djihadiste algérien, présenté comme le chef du conseil des notables d'ACMI et comme le directeur de communication.
Guerre en Somalie, les Shabab Al-Shabaab disent détenir les soldats ougandais de l'AMISOM, la force de l'Union africaine. Ils sont en bonne santé, affirment les djihadistes. Kampala affirmait qu'aucun de ses militaires n'était porté disparu.
Et c'est dans ce contexte que le département d'État a annoncé le début des opérations de la mission des États-Unis en Somalie. On fait le point avec Nathalie Barge.
La nouvelle mission reflète la poursuite des efforts américains en vue de normaliser les relations bilatérales depuis la reconnaissance du gouvernement fédéral de la Somalie le 17 janvier 2013. La mission des États-Unis en Somalie est basée au sein de l'ambassade des États-Unis à Nairobi, au Kenya, et sera dirigée par un chargé d'affaires jusqu'à ce que le président nomme et le Sénat confirme le prochain ambassadeur américain en Somalie. Le lancement de la mission américaine en Somalie est une nouvelle étape vers le rétablissement d'une présence diplomatique des États-Unis en Somalie, comme annoncé par le secrétaire d'État John Kerry le 5 mai dernier lors de sa visite historique à Mogadiscio. Les autorités américaines vont continuer de voyager en Somalie pour mener des activités officielles si les conditions de sécurité le permettent, indique le porte-parole du département d'État John Kirby dans son communiqué.
Crise politique en Guinée-Bissau, la Cour suprême de justice a déclaré inconstitutionnelle la nomination du Premier ministre Bassirou Dia par décret présidentiel. Le nouveau chef du gouvernement a par ailleurs tenu une audience aujourd'hui avec le chef de l'État, José Mario Vaz.
L'information a été rendue officielle à la présidence de la République par le chef du gouvernement Bassirou Dia à sa sortie d'audience avec José Mario Vaz et qui a informé que les 8 juges conseillers de la Cour suprême qui exerçaient le rôle de la Cour constitutionnelle ont donné leur décision de déclarer inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 du président bissau-guinéen José Mario Vaz qui avait nommé Bassirou Dia comme premier ministre. Face à cette situation tant attendue par les bissau-guinéens, Bassirou Dia sans tarder a garanti qu'il va présenter ce jour une lettre de démission au président José Mario Vaz. Bassirou Dia.
Comme la Cour suprême de justice a considéré inconstitutionnel le décret numéro 6/2015 qui m'a nommé comme premier ministre, en conséquence de cette décision, je vais présenter une lettre de démission au poste de premier ministre pour formaliser cette décision de demande de démission.
Les juges considèrent que la décision devrait être communiquée aux partis politiques puis relâchée au public, a déclaré la note de la Cour suprême de justice. On rappelle qu'un groupe d'avocats contestant la nomination de Bassirou Dia le 20 août dernier avait déposé le 26 du même mois à la Cour suprême une ordonnance demandant d'examiner la constitutionnalité de la décision du chef de l'État de nommer le premier ministre Bassirou Dia contre la volonté du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert PAGC, parti vainqueur des dernières élections législatives en Guinée-Bissau. Une situation qui peut encore mener le pays dans une instabilité politique. Nouaman Kali Bissau, VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Épidémie d'Ebola, voilà une semaine qu'aucun nouveau cas n'a été enregistré en Guinée. Une première depuis mars 2014, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Le point avec Michel Joseph.
Cela fait 7 jours qu'il n'y a pas eu de cas d'Ebola en Guinée, a annoncé le docteur Bruce Elwood, responsable de la lutte contre l'épidémie en Afrique de l'Ouest. La prudence reste toutefois de mise, car la période d'incubation du virus est de 21 jours. C'est la plus longue période enregistrée sans nouveau cas d'Ebola en Guinée depuis mars de l'an dernier. Pour Bruce Elwood, cela signifie que la maladie est de mieux en mieux contrôlée, et ce, malgré la saison des pluies, qui rend encore plus complexe la surveillance de l'épidémie, avec des routes presque impraticables dans la région. Partie en décembre 2013 du sud de la Guinée, l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a fait plus de 11 300 morts pour plus de 28 100 cas. Un bilan sous-évalué de l'aveu même de l'OMS. L'OMS espère mettre un terme à l'épidémie d'ici fin 2015 et prépare actuellement avec les autorités des pays concernés la phase 3 de la réponse à cette crise sanitaire. Elle consiste notamment à contrôler les risques résiduels de réapparition de la maladie liée à la persistance du virus chez ceux qui ont survécu à la maladie.
Le conflit syrien au centre d'un entretien téléphonique aujourd'hui entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue américain, John Kerry. Washington se montre préoccupé par un possible renforcement militaire russe en Syrie. En fait, les États-Unis ont dit vérifier des informations irrelatives. Il faut dire que la Russie est l'un des principaux alliés et défenseurs du régime de Bachar al-Assad.
Les États-Unis vont accueillir davantage de réfugiés syriens. La promesse a été faite par le secrétaire d'État John Kerry. Le département d'État a promis qu'il y aurait entre 5 000 et 8 000 Syriens réinstallés aux États-Unis à l'automne 2016.
Dossier nucléaire iranien, l'accord du 14 juillet a un nouveau supporter à Washington. Il s'agit de la candidate démocrate Hillary Clinton. L'ancienne secrétaire d'État qui brigue l'investiture du Parti démocrate pour la présidentielle de l'an prochain a vigoureusement défendu l'accord. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
La Côte d'Ivoire a lancé un emprunt obligataire de 150 milliards de francs CFA sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine pour financer des projets d'infrastructure, selon l'agence APA. Depuis 4 ans, la Côte d'Ivoire enregistre une forte croissance économique et plusieurs ambitieux programmes d'infrastructure ont été lancés dans le pays. La Tunisie va demander un nouveau plan d'aide au Fonds monétaire international dans un contexte économique morose pour le pays, a annoncé aujourd'hui Chedli Ayari, le gouverneur de la Banque centrale tunisienne. Le montant et les modalités de ce plan d'aide n'ont pas été arrêtés, mais il devrait être au moins égal à la ligne de crédit consentie par le FMI à la Tunisie en 2013, soit 1,7 milliard de dollars. L'économie tunisienne est en berne depuis la révolution de 2011, une situation qui s'est aggravée depuis les attentats du printemps dernier. Le géant minier anglo-américain Platinum a annoncé aujourd'hui la vente de 3 mines de platine en Afrique du Sud à Sibanye Gold, le plus gros producteur d'or du pays, pour un montant de 326 millions de dollars. Les deux entreprises avaient entamé des discussions la semaine dernière alors que l'industrie du platine souffre de la chute du cours du métal, moins 40% depuis 2011, et des grèves qui paralysent régulièrement le secteur.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Claire.
Et nous passons tout de suite à notre page sport présentée ce soir par Dili Dico. Salut Dili, un plaisir de vous avoir avec nous en studio.
Bonjour Gabi.
Nous démarrons avec les 11e Jeux africains qui se poursuivent à Brazzaville. Le Nigeria a éliminé le Ghana en football.
Pour leur deuxième et dernier match de la phase de groupe de ces Jeux africains, en raison du retrait de l'Égypte, les jeunes Ghanéens se sont inclinés face aux Flying Eagles 2-0 sur des réalisations d'Ajayi à la 55e minute et de Sokari à la 87e minute. Ce résultat met un terme à leur participation à la compétition, alors que dans ce groupe B, la qualification va se jouer entre le Sénégal et les Nigérians lors de la prochaine journée.
En ce qui concerne la CAN 2017, le Sénégal pourrait être traîné devant la CAF par la Namibie.
La fédération namibienne entend déposer un recours auprès de la Confédération africaine de football après son match face au Sénégal lors de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. L'instance a dans son viseur deux joueurs sénégalais qui seraient arrivés dans le pays avec des passeports français. Selon les commentateurs sportifs, ce recours a très peu de chances d'aboutir.
Football international, il semble que les Américains ne sont pas trop contents, Dili, après leur match face au Brésil.
Le Brésil a infligé une défaite cinglante aux États-Unis, 4-1 en match amical ce mardi à Foxborough. Le joueur vedette et capitaine de l'équipe brésilienne Neymar, entré en cours de rencontre, a marqué 2 buts. Les États-Unis ont vécu leur plus lourde défaite depuis l'entrée en fonction de leur sélectionneur allemand, Jürgen Klinsmann. Ils affrontent le mois prochain le Mexique en barrage de qualification pour la Coupe des Confédérations 2017 en Russie.
Parlons tennis avec l'élimination de Tsonga et Mladenovic ainsi qu'une victoire de Djokovic à l'US Open.
Tout à fait. Novak Djokovic, numéro 1 mondial, a validé son ticket pour les demi-finales de l'US Open hier dans l'après-midi. Le Serbe a battu l'Espagnol Feliciano Lopez en 6-1, 3-6, 6-3, 7-6. Quant à Joe Wilfried Tsonga, il s'est incliné après 4 heures de jeu face à Martin Cilic en quart de finale.
Et du côté des dames?
La numéro 1 mondiale, Serena Williams, a battu sa sœur aînée Venus Williams en quart de finale de l'US Open.
Voilà pour les sports. Merci Dili Dico.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Cher Robin Dorsil et Morgane Diriek en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Gabi, le Sénégal, où le procès de l'ex-dictateur tchadien Hissène Habré se poursuit devant les chambres africaines extraordinaires.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est le balai des experts et des témoins, Morgane. Le contexte historique a été évoqué, bien sûr. Par ailleurs, les victimes ont montré leur soulagement avec la tenue de ce procès. Elles espèrent toutes un verdict juste et équitable. Écoutons le reportage de notre correspondante à Dakar, Sorna Natambay.
Ce mercredi, troisième jour après la reprise du procès Habré, est marqué par l'audition des experts. Il s'agit surtout de définir le contexte historique, mais aussi de cerner la personnalité de l'ancien chef d'État. Celui-ci est présenté par l'historien Arnaud Dingamadji comme un homme brillant, fier et prêt à tout pour le pouvoir. Il est revenu sur la période entre le 7 juin 1982 et le 1er décembre 1990. Pourtant, vers le début des années 80, l'ancien président était apprécié par certaines puissances telles que la France ou les États-Unis. Ces pays ont été à ses côtés dans sa guerre contre le défunt dirigeant libyen Muammar Kadhafi. Washington a financé cette entreprise à hauteur de 12 milliards de francs, soit 25 millions de dollars. Paris, de son côté, a fourni le matériel et le personnel militaire nécessaire. Autre expert convoqué, Yahara Gassama Diop de l'École nationale des travailleurs sociaux spécialisés. Selon le parquet, la dame a été excusée suite à un empêchement de dernière minute. Concernant les témoignages, ils étaient aussi poignants les uns que les autres. Ousmane Abakar, victime et cultivateur au moment des faits.
Nombre de mes collègues ont été tués ou ont disparu. Beaucoup sont morts en prison suite au mauvais traitement, à la torture. Je rentre maintenant au pays avec l'esprit serein et plein d'espoir que le procès qui vient de commencer aboutira à un verdict juste et équitable.
Après la lecture de l'ordonnance de renvoi, c'est un sentiment de délivrance partielle qui habite les victimes. Clément Abefouta, président de l'association des victimes du régime de Hissène Habré.
Nous avons reconnu dans cette lecture nos noms, ceux de nos frères et sœurs tchadiens, ceux de nos parents. Aujourd'hui, dans le monde entier, nul ne peut ignorer l'étendue des horreurs que le peuple tchadien a subies de 1982 à 90.
Les avocats de la défense continuent de bouder la salle d'audience. Maître Georges-Henri Bautier, de la partie civile, lui, a émis une réserve après la lecture de l'ordonnance de renvoi.
Nous allons soulever la question qui n'a pas été tout à fait toujours reprise par l'ordonnance de renvoi, qu'il était pour nous souvent à la fois l'exécutant direct et à la fois le supérieur hiérarchique. C'est simplement demander qu'on prenne acte de nos réserves, qu'on va plaider, on joue franc jeu.
Le défilé des témoins et des experts se poursuit. Le régime d'Habré a été mis à nu, ainsi que ses méthodes de torture. Lui, par contre, était muet comme une carpe, même quand il a été appelé à la barre, toujours enturbanné. Une requête a été adressée à la chambre afin qu'Habré retire son turban. Mais le juge a décidé de ne pas statuer pour l'instant. Sorna Natambay, Dakar, VOA Afrique.
Et pour des images vidéo du procès Hissène Habré, voyez le segment VOA 60 sur notre site voaafrique.com.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la reprise mouvementée du procès d'Hissène Habré au Sénégal. L'ex-président tchadien est jugé pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et de torture. Quels en sont les enjeux? Le procès d'Habré, le premier d'un ex-dirigeant africain dans un autre pays du continent, servira-t-il d'exemple? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Et nous partons maintenant au Burundi. L'armée annonce que deux hommes ont été tués dans deux affrontements distincts avec des militaires dans les environs de la capitale Bujumbura. Pour le porte-parole de l'armée burundaise, le colonel Gaspard Baratouza, ces malfaiteurs armés ne peuvent être qualifiés de rebelles. Il estime qu'ils ont fait surtout leur publicité en attaquant une localité située près de Bujumbura. Il appelle également les populations à rentrer chez elles.
Les témoignages de la population à Kanyosha, sur les hauteurs surplombant la capitale, indiquent que mardi soir vers 18h, un groupe d'hommes armés ont attaqué la position militaire située sur la colline Nyamaboko de la zone Kiyenzi dans la province de Bujumbura Oral. Des témoignages corroborés par l'armée qui précisent que deux assaillants ont trouvé la mort, trois militaires blessés et une arme saisie. Très tôt ce mercredi matin, l'armée était à la poursuite des assaillants. Des tirs ont été entendus par la population. Les sous-administratifs de la localité font état de moins 2000 personnes qui ont fui leur maison. Quasiment les collines de Gisovu et Muvumu sont désertes, la population ayant fui vers la paroisse de Buhonga et Anyamirawa. Ces habitants affirment que les affrontements entre assaillants et l'armée étaient intenses hier soir. Depuis quelques mois, le Burundi s'enfonce dans une dangereuse spirale de violence qui était concentrée sur certains quartiers contestataires de la capitale. Malgré ces violences qui ont fait une centaine de morts et un coup d'état avorté à la mi-mai, le président Pierre Nkurunziza a été réélu dans une élection qui était contestée par des opposants et la société civile. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Il y a eu de nombreuses réactions à Kinshasa après l'arrêt mardi de la Cour constitutionnelle enjoignant le gouvernement congolais de prendre des mesures transitoires exceptionnelles pour assurer la direction de 21 nouvelles provinces et à la CENI d'organiser l'élection des gouverneurs avant tout autre scrutin. La majorité présidentielle salue cet arrêt. L'opposition, elle, parle d'une cour inféodée au pouvoir en place, alors que la population regrette le non-respect du calendrier électoral. Reportage de Dominique Dinanga de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
L'élection de gouverneur de nouvelles provinces est irréversible selon la décision de la Cour constitutionnelle. Mais face au manque de moyens pour l'organisation de ces scrutins, la Haute Cour a ordonné au gouvernement de prendre des dispositions transitoires exceptionnelles avant l'organisation de cette élection pour faire régner l'ordre public et la sécurité dans ces entités. Benoît Lomba est le président de la Cour constitutionnelle.
La Cour ordonne en conséquence à la Commission électorale nationale indépendante d'évaluer en toute indépendance et impartialité tout le processus électoral conduisant aux élections prévues dans son calendrier global du 12 février 2015 et notamment celle des gouverneurs et vice-gouverneurs des nouvelles provinces avant la tenue des élections provinciales. Ordonne au gouvernement de la République démocratique du Congo de prendre sans tarder les dispositions transitoires exceptionnelles pour faire régner l'ordre public.
L'arrêt de la Cour est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique congolaise. Si à la majorité présidentielle, on parle d'une décision salutaire pour éviter les chaos dans la gestion des provinces de Mambré, par contre, à l'opposition, on voit derrière cet arrêt la volonté manifeste de la Cour à favoriser le glissement du processus électoral. Les opposants dénoncent la précipitation et l'improvisation dans le processus de découpage territorial. Au sein de la population, leurs avis divergent également à ces sujets.
En voyant tout ce qui se passe, en tout cas, je doute un peu que les élections soient organisées dans les délais. Je doute parce que ça se voit même. Bien que je suis pas un homme de politique, mais en tant que peuple qui suit l'évolution de cette politique au pays, en tout cas, je doute que cela va se réaliser à la délai constitutionnel. Je doute.
Ça, c'est le monde à l'envers. C'est parce que toutes ces institutions sont bientôt vers la fin du mandat. Le mandat est déjà passé. Et de toutes les façons, nous avons constaté que les années passées, l'Assemblée provinciale qui avait voté les gouverneurs, c'est ça. Et cette fois-ci, comment on peut voter les gouverneurs et que l'Assemblée provinciale sera votée après? Donc, ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. En tout cas, je ne crois pas mal, parce que ça commence déjà très mal.
La MONUSCO qui s'est prononcée mercredi s'est réservée de commenter la décision de la Cour constitutionnelle. Mais son porte-parole a réaffirmé la volonté de la communauté internationale d'appuyer le processus électoral en République démocratique du Congo. Charles-Antoine Bambara.
Ça relève de la souveraineté nationale. Pour ce qui nous concerne, nous n'allons pas commenter cette décision, mais nous voulons juste rappeler qu'effectivement, la communauté internationale est prête, pour ce qui la concerne, en tout cas, accompagner la RDC dans l'organisation des élections dans leur ensemble, une fois que cela est programmé, et particulièrement les élections législatives et la présidentielle de l'année prochaine.
Après l'arrêt de la Cour, la balle reste dans le camp du gouvernement qui devrait prendre des dispositions nécessaires pour éviter un vide juridique à la tête des nouvelles provinces. Kinshasa, Dominique Dinanga de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
L'Allemagne, la France, l'Angleterre et l'Espagne ont accepté un plan européen de répartition de 160 000 réfugiés, dont 120 000 sont actuellement en Italie, en Grèce et en Hongrie. Les quotas d'accueil placent l'Allemagne en première place, suivie de la France et de l'Espagne. Londres, de son côté, s'est engagé à accueillir 20 000 réfugiés en 5 ans, tout en exprimant son désaccord sur le principe des quotas. Nathalie Barge a joint la porte-parole du HCR en France, Céline Schmitt.
Alors, ce qui est très important et au-delà des chiffres, c'est que les personnes qui arrivent en Europe et qui ont besoin de protection aient accès à cette protection internationale. On voit en fait que tous les jours encore entre 4000 et 5000 personnes arrivent en Europe. Il s'agit majoritairement de personnes qui arrivent en Grèce et il s'agit majoritairement de personnes qui fuient les conflits ou des persécutions en Irak, mais également en Afghanistan et surtout en Syrie. Et il est très important que toutes les personnes qui ont besoin de protection aient accès à la protection et qu'il y ait une réponse collective par rapport à cette situation. Si tous les pays ensemble répondent à cette situation est gérable.
Est-ce que le HCR a un rôle dans cette crise ? Parce que vous, d'ailleurs, vous ne l'appelez pas la crise des immigrants, mais vous insistez sur ce terme de crise de réfugiés.
La majorité sont des personnes qui fuient des conflits, il s'agit donc de réfugiés. Nous avons envoyé des équipes d'urgence sur place, notamment en Grèce, mais également en Hongrie. Et nous avons rappelé encore aux différents États que nous sommes disponibles à les aider, notamment pour également la mise en place de centres de réception.
Quelle est la position du HCR dans cette crise ? Parce que c'est bien Antonio Guterres qui a dit « Accueillir les réfugiés n'est pas une question de statistique, c'est une obligation définie par le droit international. »
Oui, effectivement, il y a des discussions qui ont lieu au niveau de l'Europe, ce qui est très encourageant. Mais il faut effectivement, au-delà même des statistiques, que l'ensemble des personnes qui ont besoin de protection aient accès à la protection en Europe.
Comment percevez-vous cette crise ? Qui est le même type de crise finalement que vous avez connue vous-même dans d'autres pays.
La crise des réfugiés en Europe est liée également au manque de financement en fait, des organismes humanitaires qui apportent une aide humanitaire aux réfugiés, notamment réfugiés syriens qui se trouvent au Liban, en Jordanie, mais également en Turquie. L'appel des différents organismes humanitaires, l'appel de financement n'a été financé qu'à hauteur de 41% pour la région et qu'à hauteur de 21% pour la Turquie. Les organismes humanitaires et les États qui accueillent les réfugiés n'ont donc plus les moyens d'apporter l'aide nécessaire à ces réfugiés. Et c'est une des raisons pour lesquelles les réfugiés essaient maintenant de trouver la protection et l'assistance en Europe. Il y a plus de 4 millions de réfugiés syriens, plus de 2 millions sont actuellement en Turquie, plus d'un million sont au Liban. Quand on parle d'environ 370 000 personnes qui sont arrivées en Europe, il faut penser également aux pays voisins de la Syrie qui, eux, en accueillent plusieurs millions.
Et Céline Schmitt, porte-parole du HCR en France, jointe à Paris.
Salut les amis, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, international music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Morgan, vous savez ce qui s'est passé aujourd'hui à 16h30 GMT? Eh bien, la reine Elisabeth II a battu un record de longévité à la tête de la monarchie britannique, dépassant sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria, qui resta au pouvoir pendant 63 ans, 7 mois et 2 jours. C'est la fin de cette édition. On remercie Michel Joseph à la mise en onde et Alfredo Santos à la console. Présentation Morgan Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook et notre site internet voaafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.